Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons peu, parlons bien. Ici, nous partageons sans tabou notre expérience en tant que chrétiens dans notre société actuelle. Qu'il s'agisse des hauts, des bas, des joies, des peines, des échecs ou des victoires, ce podcast a pour objectif d'échanger, de partager ce que les chrétiens vivent au quotidien de nos jours. Aujourd'hui, nous recevons Maricier. Maricier est atteinte d'un syndrome rare, la connectivité mixte, qui se caractérise notamment par le lupus. Elle nous explique en détail ses symptômes, les difficultés qu'elle rencontre au quotidien, mais aussi comment cela a changé sa vie et sa relation avec Dieu. Bonne écoute.
Bonjour Maricier.
Bonjour.
Bienvenue dans Parlons peu, parlons bien.
Merci de m'avoir invitée.
Alors, pour commencer, comme d'habitude, je vais te demander de te présenter.
Ok. Ben, je m'appelle Maricier, j'ai 32 ans, bientôt 33, mais je fais toujours jeune. Hein. Et que dire de plus? En ce moment, ben, je suis en formation et aussi je fais plein de choses à côté car je suis super créative. Et puis voilà.
Ok. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de ta maladie, de tes maladies. De toute façon, tu vas nous expliquer. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous définir déjà ta maladie? Donc tu m'as dit que je sais que tu as un lupus, mais c'est plus compliqué que ça. Donc explique-nous.
Ok. Ouais, c'est très compliqué. Alors j'ai une connectivité mixte. En fait, c'est un syndrome rare. Et ben, il fallait que j'aie quelque chose de rare. Et qui se caractérise par plusieurs manifestations de d'autres maladies, dont le lupus érythémateux disséminé. Et il y a aussi, ça se manifeste aussi avec une autre maladie qui s'appelle la polyarthrite aussi, rhumatoïde.
Okay.
Et puis il y a aussi la sclérodermie. Et puis, moi, j'ai pas ça, mais ça fait partie aussi de mon PAC. Ça s'appelle la polymyosite. Voilà, polymyosite, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, j'ai cette maladie, la connectivité mixte, ben, elle comporte tout ça, tout un PAC.
D'accord.
Et okay. Ouais, c'est super rare. Et tout ça, ça fait partie d'une maladie aussi auto-immune.
D'accord. Ça fait beaucoup de mots savants.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer tes symptômes?
Oui, donc je vais expliquer un peu tout ça. Alors en fait, mes symptômes, bon, je vais prendre parce que j'ai plus aussi par rapport au lupus érythémateux. Donc c'est une maladie chronique. Donc en fait, c'est une maladie qui arrive tout le temps et par poussée de temps en temps. Donc en fait, ça ne se contrôle pas. Et à cause du lupus, et ben en fait, ça m'a, ça a abîmé mes poumons. Donc ça m'a créé pneumopathie interstitielle, voilà, diffuse aussi. Donc c'est que des grands mots, mais qui veut dire en fait ce que j'ai une fibrose pulmonaire. Et avant ça, j'ai eu une une pneumonie aussi. J'ai eu plusieurs pneumonies, mais là, maintenant, j'ai une fibrose pulmonaire. Et j'ai aussi d'autres symptômes, dont le syndrome de Raynaud, où, par exemple, quand il fait froid, je suis en hypothermie. J'ai une mauvaise circulation du sang. J'ai aussi des problèmes d'arthrose, parce que le lupus, ça joue aussi sur l'arthrose. Donc, sur chaque articulation, j'ai super mal, si je n'ai pas de médicaments. J'ai aussi le syndrome sec, buccal et oculaire.
C'est quoi?
Donc ça signifie que tu as souvent la bouche sèche et les yeux secs. Voilà, donc d'accord. C'est ça. Et puis, je pense que c'est tout. Hein. Ben, c'est déjà beaucoup.
Ouais, mais c'est déjà beaucoup, c'est énorme.
Ah oui, et aussi, j'ai une fatigue chronique.
D'accord, ok.
Ouais, je pense que c'est tout. Et oui, j'ai aussi des problèmes digestifs. Donc en fait, j'ai peut-être des remontées. Des brûlures d'estomac, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est tout. J'ai que ça. Je pense que ça suffit.
Ouais, bien sûr. Et Et en fait, depuis quand tu as ça? Et quand est-ce que tu as appris que tu avais ça? Et comment tu l'as appris, en fait, tout
Alors
simplement?
là, c'est vraiment toute une histoire. Donc en fait, là, j'ai 32 ans. Donc il y a 10 ans de ça, quand j'avais 22 ans, ou 20 ans, ouais, entre 20 ans et 21 ans, je suis partie faire mes études de kinésithérapie en Belgique. Et en Belgique, en kiné, il faut faire beaucoup de sport. Moi qui suis une grande sportive, voilà. Donc j'étais trop contente de faire du sport là-bas. Donc en fait, je courais et tout ça, mais on courait à fond. Et moi-même, je me disais, mais ils sont sérieux, les Belges, on fait tout ça de sport pour être kiné. Et donc on courait. Et un jour, dès qu'on courait, mon cœur, je me sentais super pas bien. Et je sentais que mon cœur battait super fort dans. Genre, il avait de la tachycardie. Je me suis dit, mais c'est pas normal. Et puis tout d'un coup, je suis tombée comme ça. J'ai fait un malaise alors que j'ai jamais fait ça. Jamais fait ça. Et donc, je suis tombée. Et donc, depuis ce jour-là, on m'a dit, bah, Marissa, il va faire des examens. Et en Belgique, on m'a dit, oui, tu as des problèmes de souffle. Je pense que tu es asthmatique. Et moi, je leur dis, mais je pense pas que je sois asthmatique parce que je sens qu'il y a un problème. Et dès que je courais, en fait, je manquais de souffle. Et donc, finalement, après, je suis partie en France faire des examens. J'ai été voir un pneumologue. Le pneumologue, il me dit, oui, bah, je pense, je ne comprends pas trop. Bah, j'ai fait, bah, moi non plus. Je ne sais pas ce que j'ai, mais j'étais vraiment perdue parce que le médecin, il me dit, tu vas voir un médecin un spécialiste, et il te dit, moi, je ne comprends pas ce que tu as. Et bah, j'ai fait, bah, on est deux. Et il me fait, je pense que tu es asthmatique. Et je vais te donner un médicament, une Ventoline, pendant un an. Donc j'ai pris ça pendant un an, mais je vois que ça, y a pas d'effet. Et je fais toujours du sport, je suis toujours en galère. Donc ça fait que dans les groupes, j'étais toujours la dernière. Et les profs, pas du tout compréhensifs. Genre, ils se disaient, mais en fait, j'allais dire la meuf, mais la fille, elle veut pas faire de sport. Elle est fainéante. Donc les profs, ils me disaient ça de moi. En plus, elle est française, donc ça veut dire qu'elle ne veut pas faire de sport. Genre, j'ai dit, mais non, c'est pas que je ne veux pas, mais c'est que mon corps n'arrive pas. En fait, c'était vraiment ça, mon corps n'arrivait pas à faire du sport. C'était comme si c'était c'est un truc super lourd au fond de la mer que tu essayes de lever, mais en fait, t'arrives pas parce que c'est super lourd. Et quand je faisais de la. J'ai dû faire un examen de natation et je nageais, bon, j'étais toujours la dernière, hein. Et pendant l'examen, je commençais à couler, à me noyer. Parce qu'en fait, j'avais plus de force. Pourtant, j'ai fait. C'était la deuxième. Comment on a fait ça? Deuxième tour. Et là, mon corps est devenu lourd et je commençais à me noyer. Et en face de moi, il y avait ma prof et elle faisait allez, Marissier, allez. Et moi, dans ma tête, je me suis dit mais elle est folle, je suis en train de me noyer. Elle me dit allez au lieu de venir me sauver. Et c'est ma copine qui a couru et qui m'a sorti de l'eau. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, il y a vraiment un problème. Je pense que je sens que je suis malade. J'ai vraiment un problème. En plus, je disais à Dieu, mais Seigneur, je sais que j'ai quelque chose, mais personne ne me croit. Mais personne ne comprend mes symptômes. Et finalement, de là, mon directeur, mais il m'a fait, bah, Marissa, je t'ai vu à la natation. Montre-moi tes examens, tes trucs de souffle, tes EFR, ça s'appelle, tes volumes pour voir. C'est un souci. Et ce prof, je pense que c'est Dieu qui l'a envoyé, il m'a dit, bah, Marissier, je vois que en fait, tu n'arrives pas à respirer. Il y a un problème dans tes poumons. Et pourtant, à chaque fois, tu montres un grand sourire et tout ça. Donc, en fait, des fois, on se demande si tu es vraiment malade parce que quand on te voit, on dirait que tu vas bien. Mais quand on regarde ta feuille, en fait, on se dit, mais cette personne, elle a quel âge? Donc, et finalement, grâce à lui, eh ben, il m'a dispensé. C'est là que j'ai vraiment compris que j'avais vraiment une grande maladie. Et après, mais ce n'est pas fini parce que je pense que c'était en 2016 qu'il s'est passé ça. Et donc après, j'ai dû aller au Rwanda. Et arriver au Rwanda pour prêcher. Toi-même, tu étais avec moi. Pendant un mois, je toussais énormément. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je toussais beaucoup, beaucoup. Et moi-même, j'ai cru que c'était à cause de la poussière. Et Sauf au moment des prédications, Dieu permettait que je ne tousse plus. Mais sinon, je toussais énormément. Et quand je suis revenue en France, mon médecin il m'a fait, oui, c'est pas normal, je pense que tu as pris une maladie de là-bas. Parce que pour eux, direct, tu vas en Afrique, tu as une maladie. Donc,
C'est
je leur ai
clair.
dit, mais pas du
Ouais,
tout,
c'est
j'étais
clair.
bien malade avant, mais il me fait, non, non, mais je pense que tu as pris quelque chose, c'est pas normal que tu tousses. Parce qu'en fait, ça, ma toux avait un bruit bizarre. C'est pas une vraie toux, mais un bruit plus profond.
OK.
Et là, il m'a fait pas. C'était la première fois depuis 2010 à 2016 qu'on m'a proposé de faire un scanner, des IRM et tout ça. Parce que sinon,
Waouh.
pour eux, c'était que de la comédie. Entre 2010 et 2016, j'ai fait que des radios, mais
Oh.
les radios, on voit presque rien. Et c'est vraiment en 2016 quand
OK.
il a vraiment, pour lui, j'avais chopé quelque chose en Afrique, qu'il a décidé de me faire un scanner. Et là, dès que j'ai fait le
OK.
scanner, et il a vu mes résultats, il m'a fait, je pense que je vais vous envoyer vers un spécialiste en pneumologie. Et là, je lui ai dit, pourquoi j'ai un
D'accord.
problème? Il me fait, oui, je pense qu'il y a vraiment un gros souci. En fait, tes poumons, ils vont vraiment pas bien. J'ai
OK.
fait, mais Seigneur. En plus, pendant tout ce temps, je disais que j'avais quelque chose, personne ne m'écoutait. Et en fait, j'étais vraiment malade. Donc, ça fait qu'à
Ouais.
cause de ça, à cause de ma maladie, j'ai, en fait, je ne fais plus kiné. J'ai dû arrêter mes cours. Parce que je sentais que j'avais une maladie, je n'arrivais plus à continuer. Donc, j'ai dû arrêter ça. Il y a plein de trucs que j'ai dû arrêter. Mais moi, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais finalement, est-ce que je sers à quelque chose? Tu vois, parce que je me dis que tout ce que je faisais, j'échouais. Mais en fait, c'était parce que j'étais malade. Et moi, je ne le comprenais pas. Et c'était vraiment frustrant. Et c'est quand, en 2016, on m'a dit, Marcy, t'es vraiment malade. On va te faire des examens. Donc, j'ai fait un examen sanguin. Et c'est là qu'ils ont compris que j'ai le lupus. Et qu'ils ont compris, en fait, c'était plus profond, que j'ai une connectivité mixte. Mais c'est vraiment en novembre 2016 que j'ai su tout ça.
D'accord, ok. Bah, le cheminement, il a été super long du
Mais
coup.
franchement, ouais, 6 ans. Ouais, 6 ans.
C'est énorme. Déjà pour le scanner, ça a pris un temps énorme. Tu aurais pu ne pas perdre autant de temps au final si tu avais écouté.
Non, c'est vrai.
Et ouais. Et du coup, à partir du moment du coup, on t'a annoncé ça et que tu as su ça, comment ça a changé ta vie et ton quotidien?
Ben, quand j'ai su ça, ben, franchement, c'était. C'est moi, j'ai pris ça comme un coup parce que je me suis dit, finalement, je suis vraiment malade. Et ça sera quoi ma vie? En plus, moi, je suis quelqu'un qui planifie tout. J'avais déjà prévu que à 27 ans, je serais mariée, à 28 ans, machin, machin. Mais là, tout s'est cassé parce que je me suis dit, mais finalement, t'es malade. Et en plus, le pire, c'est que ma maladie, ben, comme elle n'est pas trop connue, moi-même, je la connaissais vraiment pas trop. Parce qu'il n'y a vraiment rien dessus. Le lupus, on n'en parle pas beaucoup. Connectivité mixte, franchement, ça, on ne connaît pas du tout. Et par contre, pneumonie, ça on connaît. Mais sinon, je ne savais rien. Et donc, finalement, on m'a donné plein de traitements. Donc, j'ai dû faire de la chimiothérapie 2 fois. Et les 2 fois, ça n'a pas fonctionné. J'ai dû faire aussi des cortic. J'ai pris des corticoïdes, mais des grandes doses. Ça m'a fait grossir, mais ça n'a rien fait. Et pendant tout ce temps-là, donc j'ai dû rester chez moi. J'ai pas du tout travaillé. Et donc j'étais super fatiguée. Et donc finalement, mon quotidien était rester à la maison. Et c'est tout. En fait, je faisais rien. C'était
Ouais,
assez.
parce que physiquement, c'était compliqué,
Oui,
quoi.
c'était assez compliqué. Je faisais rien. Et puis après, je me suis dit, mais Marissier, on va sortir quand même. Et donc, je me suis dit, en 2007, allez, on va sortir, on va aller en Belgique. Et puis, finalement, j'ai été en Belgique. Et c'est là que j'ai fait un pneumothorax. J'en ai fait trois.
Est-ce que tu peux expliquer ce que
Alors, un
c'est?
pneumothorax, c'est. En fait, c'est de l'air qui rentre dans tes poumons. Et donc, finalement, ça fait que ton poumon, il s'affaisse. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi s'il y a des médecins qui m'entendent. Voilà. Mais normalement, c'est ça. Et donc, en fait, j'avais un poumon, le poumon droit, tout raplapla. Et donc, je n'arrivais pas à respirer. Donc, je me réveille, je sens qu'il y a quelque chose. Et puis, en plus, je respirais avec un son comme ça. Tu vois, trop bizarre. Et puis, moi-même, je me suis dit, bah, comme je suis malade, je pense que c'est ça, c'est rien. Et comme je suis une fille déter dans la vie, j'ai été à l'église comme ça. Je me maquille, je me prépare, mais je sens que j'ai mal. Mais je me suis dit, non, c'est ma maladie. Voilà, je vais à l'église, j'arrive pas à monter les escaliers. Je m'assois dans l'église, j'arrive pas. Je fais, mais il y a un problème. Et tout le monde me dit, viens, on va à l'hôpital. J'ai fait, non, c'est rien, c'est rien. Et après, à un certain moment, je me sens pas bien. Je me suis dit, je pense qu'il faut aller à l'hôpital. Et j'y vais, mais les urgences en Belgique, c'est super. Je suis rentrée et là, on m'a fait une radio. On a vu tout de suite que je faisais un pneumothorax. On m'a opéré
Ah oui,
comme
d'accord.
ça, ouais. On m'a mis un truc et puis on m'a planté sur le côté droit un tuyau. On m'a coupé et tout. Et puis je pense qu'on m'a mis des anesthésiants. Mais le problème, c'est que c'était pas super fort. Donc ça fait que je me suis réveillée pendant qu'ils m'enfonçaient le tuyau. Et je leur dis, mais j'ai mal et tout ça. Et après, après je les ai entendus dire, elle se réveille, elle se réveille. Et après, je me suis endormie. Et puis après, ils ont continué. Donc après, j'avais un tuyau d'aspiration à l'hôpital en Belgique. En plus, ma mère a s'inquiété parce qu'elle était en France. Donc je suis restée à peu près 10 jours pour que le poumon se regonfle. Normalement, il peut se remettre tout seul. Mais moi, il se recollait pas. Il était toujours assez bas, donc ils avaient peur de me laisser sortir et d'enlever le tuyau dans mon corps. Et finalement, après, je pense, 15 jours, eh ben, ça s'est remis en place. Donc là, j'ai pu retourner en France. Et en France, je suis restée un mois tranquille. Mais un mois, j'ai refait encore un pneumothorax. Et j'ai dû retourner à l'hôpital. Et là, on m'a dit, bah, Marissa, faut vous opérer et il faudra faire un talcage. Donc, un talcage, c'est coller mon poumon droit à. Bah, le coller, quoi, afin qu'il se remette normalement. Tu vois, pour pas qu'il se dégonfle. Donc maintenant, il est collé avec une glue spéciale médicale, hein. Et là, j'ai souffert, franchement, de talcacher. Les gens se font talquer. Sachez que ça fait très mal. Ça fait super mal d'avoir déjà, tu as trois tuyaux, ou deux, je m'en souviens plus, mais tu as dans ton corps et ça fait ultra mal. Moi, franchement, je détestais mon cardiologue qui m'a cousu et tout ça. Franchement, je pleurais tout le temps parce que ça faisait super mal. Mais maintenant, grâce à Dieu, ça va mieux. Ça fait 3 ans, 4 ans et ça va.
Du coup,
J'ai
ouais,
plus de problèmes. Et ouais, ben après, j'ai enchaîné les chimios et puis finalement, j'ai rien fait. J'ai peut-être travaillé un moment, mais c'était compliqué parce que pour me déplacer, t'es fatiguée. En fait, chaque année, je voyais que j'étais de plus en plus essoufflée. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est pas. Parce que ça, on m'expliquait pas. On me disait que mes poumons avaient un problème, mais on m'expliquait pas que, en fait, l'essoufflement, ça joue beaucoup. Et donc, plus les années passent, plus j'étais essoufflée. Donc, à un certain moment, j'ai dû arrêter de travailler et puis je suis restée chez moi parce que j'en pouvais plus.
Et du coup, tu peux pas travailler.
Là, je peux pas. En fait, je peux travailler de chez moi, mais je peux me déplacer, mais c'est compliqué. C'est difficile de marcher. Je suis tout le temps essoufflée. Même, tu vois, avant de commencer, j'étais juste aux toilettes, je suis revenue. Alors, à peine ces 300 mètres, je suis déjà essoufflée. Même parler beaucoup, ça m'essouffle. Et franchement, là, je fais juste des séances avec le kiné, 3 séances par semaine. Donc, je vais chez mon kiné. Et en même temps, ça me permet de faire du sport. Parce que même si on est malade, même si j'ai une fibrose pulmonaire, en fait, il faut faire du sport. Il faut toujours faire du sport, faut toujours pratiquer. Même si on est malade, il faut pratiquer le sport, faut vraiment faire du sport. Il faut que ton corps se mette en mouvement parce que plus tu restes bloqué, tu restes chez toi, tu ne fais rien, plus la maladie va progresser vite et plus tes muscles ne vont pas se développer, ils seront atrophiés, donc ils seront plus petits, Mais en fait, le sport, c'est vraiment la santé, hein.
Et du coup, tu peux pas travailler, donc tu peux pas trop sortir, etc. Est-ce que tu as l'impression, est-ce que ça t'a isolé par rapport aux autres, enfin, par exemple, par rapport à ton entourage, ou alors tu as réussi à trouver une solution pour pas t'ennuyer, en fait?
Bah, au début, il y a 2 ans, je m'ennuyais beaucoup. Mais heureusement que Dieu a permis que je rencontre, que j'ai des bons amis. Et ils venaient me voir. Même quand j'étais à l'hôpital, j'ai une amie, elle venait tous les jours me voir. Pourtant, on ne se connaissait pas beaucoup, mais elle est venue tous les jours me voir. Et puis maintenant, c'est l'une de mes bestes. Et franchement, j'ai vraiment des bons amis parce qu'ils ne m'ont jamais laissée seule, même si moi, j'ai l'impression, des fois, d'être un boulet pour eux. Je me sentais vraiment pas isolée. Et en fait, il faut pas, parce que si je m'isolais, ce serait encore pire. Parce que tu serais dans un état négatif. Enfin, au début, tu te dis pourquoi tu es malade. Finalement, tu ne sers à rien. Alors, si tu es toute seule, c'est encore
Ouais,
pire.
c'est encore pire.
Franchement, non, j'étais bien entourée, même ma famille. Puis en plus, je me suis dit, Marissier, comme tu es chez toi, eh ben, cherche une formation. Et comme ça, pour connaître d'autres personnes et aussi pour que tu puisses apprendre, tu vois, pour pas rester là sans rien faire. Donc, je fais ça.
Du coup, est-ce que, bon là, tu as parlé de tes amis, donc les gens qui étaient déjà autour de toi, mais est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, c'est quelque chose que tu caches, dont tu as honte, ou alors c'est quelque chose dont tu parles ouvertement?
Au départ, franchement, j'étais pas trop fan de ma maladie. Parce qu'à chaque fois qu'on me voyait
Cette phrase,
Marissier,
oui.
mais pour de vrai, à chaque fois qu'on voyait Marissier, ouais, Marissier, t'as la pêche, t'es bien, t'es bien. Puis finalement, quand ils aperçoivent que finalement, je marche vite, et après, on me dit, mais t'es essoufflée, dis donc, qu'est-ce que t'as et tout ça. Et là, tu vas dire, en fait, je suis malade. Et franchement, j'aime pas raconter ma maladie. Pourtant, tout le monde me demande. Donc moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, je parle beaucoup de ma maladie. Mais en vrai, j'aime pas qu'on sache que je sois malade parce que j'ai l'impression que quand j'ai pas envie que les gens aient pitié de moi. Mais finalement, après, je me suis dit, mais Marissa, il faut bien que les gens connaissent aussi cette maladie. Parce que s'il y a d'autres personnes qui ont cette maladie, il faut bien qu'ils sachent. Mais franchement, d'habitude, j'aimais pas raconter ma maladie. Je la cachais énormément. Surtout après, je me disais, en plus, si je dois rencontrer quelqu'un, il sait que je suis malade, ça va pas trop le faire. Il va se dire, oh là là, cette fille, elle est malade, blablabla. En plus, il faut qu'elle aille à l'hôpital et tout ça. Je me suis dit, ouais, c'est pas très sexy. Mais après, je me suis dit, Marissier, franchement, ça fait partie de toi. Peut-être ça te définit pas, mais ça fait partie de toi. Donc, si tu dois en parler, tu dois en parler. Mais vraiment, j'ai appris à en parler. Et c'est vraiment Instagram, ma vie avec Lulu, que j'ai pu me dé découvrir et j'ai pu en parler. Parce qu'au début, si on regarde mes photos, je montrais mes pieds, je montrais même pas ma tête. Et c'est vraiment au bout de peut-être quelques mois, je me suis dit, allez, Marissier, il faut assumer ta maladie. Tu l'as, elle fait partie de toi. Donc, vas-y, mais. Le pire, c'est quand j'ai dû mettre la machine à oxygène. Et c'est cette année que je l'ai. Non, l'année dernière, en janvier 2020. Et là, je me suis dit, Marissier, mais t'es vraiment malade. En fait, t'as une vraie maladie. Parce qu'au début, je pouvais la cacher. Parce qu'on ne voit pas que je suis malade quand on me regarde.
Non,
On
pas du
pense que
tout.
je. Ouais, on pense que je vais bien. Voilà, j'ai la pêche, que tout roule dans ma vie. Et quand j'ai dû mettre le truc à oxygène, donc avec. On a un truc dans le nez qu'on fait passer comme les personnes âgées là qu'ils ont. Et au début, moi, j'ai cru que j'aurais eu la grande bouteille. Je me suis dit, Seigneur, même si j'ai besoin d'oxygène, je ne veux pas la grande bouteille. Donc je disais à mon médecin, s'il vous plaît, je ne veux pas la grande bouteille. Vous n'avez pas un truc qui fait plus jeune? Mais en fait, je leur disais ça. Au début, ils me regardent. Je dis, ouais, elle est sérieuse. Je dis, oui, un truc qui fait plus jeune, plus petit, où on peut le cacher dans un sac à dos. Et finalement, ils m'ont pris un extracteur d'oxygène. Ça veut dire que c'est une machine qui prend l'air ambiant et qui le transforme en oxygène. Et c'est vraiment tout petit. Et au début, si j'avais en bandoulière. Mais moi, comme j'ai de l'arthrose, ça me faisait mal aux épaules. Donc finalement, j'ai trouvé un sac à dos où on pouvait le mettre. Maintenant, c'est comme un petit sac à dos que j'ai et je peux partir partout. Et là, je me suis dit, ah, oh, enfin, c'est un truc jeune, ça fait bien. Donc, je me sens. Donc, j'étais heureuse de l'avoir, mais je cachais, quand je sortais avec mes amis, je ne le mettais pas au départ. Puis, à chaque fois, ils me disaient, mais Marissi, elle est où ta machine à oxygène? Je fais, ah, elle est chez moi et tout ça. Je fais, ah, mais tu aurais dû la prendre. Mais j'avais honte. En fait, j'avais honte d'être malade. Je me suis dit, mais Marissi, à un certain moment, je parlais à Dieu, je fais, mais pourquoi j'ai honte? Pourquoi j'ai honte? Et en fait, c'est vrai que l'apparence, c'est dans le monde d'aujourd'hui, on regarde tout le monde, on regarde les défauts de tout le monde, on se crée des complexes partout et pour tout aussi. Donc je me suis dit, Marissi, il ne faut pas avoir honte. Déjà, tu as de la chance, tu as un sac à dos, tu n'as pas la grosse machine, mais quand même, il faut que tu sois quand même contente de ce que tu as. Et puis en plus, ça te permet de. Ça fait du bien à ton corps. Mais je prends du temps à l'accepter. Là, je suis vraiment en cours d'accepter de porter l'oxygène un peu tous les jours. En fait, moi, j'ai besoin de l'oxygène, mais à l'effort, quand je sors, quand je fais du sport. J'ai besoin de l'oxygène, mais ouais, c'est un peu compliqué.
Quand tu as appris que tu avais cette maladie, est-ce que ça a eu un impact sur ta relation avec Dieu? Genre, quel impact ça a eu sur ta relation avec Dieu?
Alors, quel impact? Ben, en fait, au début, je me demandais. Non, déjà, au début, je disais à Dieu, Seigneur, je sais que j'ai une maladie. Je lui ai dit, mais je sais que j'ai une maladie, mais personne ne me comprend. Et puis, finalement, quand j'ai su la maladie, j'ai fait à Dieu, mais pourquoi je suis malade? Alors, déjà, au début, je dis à Dieu, mais je sais que j'ai une maladie. Puis après, je lui ai dit, mais pourquoi je suis malade? La fille qui n'est pas du tout compréhensible. Je lui ai dit, mais pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis née malade? Qu'est-ce que j'ai fait pour être malade? Parce que pour de vrai, moi, je ne comprenais pas. Au début, tu vois tout le monde va bien. Et puis finalement, toi, tu es malade. En plus, je me disais, attends, de 0 à 20 ans, j'allais bien. Et puis tout d'un coup, la maladie, elle apparaît à 20 ans. Donc je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Moi, je ne comprends pas. C'est quoi ton but? Et puis en plus, la période en 2016, j'étais complètement perdue parce que je me dis déjà, je suis malade, je ne sers à rien. J'ai raté mes études parce que dans mes études, dès que je massais, j'avais des boules dans les doigts, fatiguée. En cours, je dormais, même si la veille, j'avais dormi peut-être 9 heures. Mais quand c'était le cours, je faisais que dormir. Je fais, mais je comprends pas, j'arrive pas à suivre. Donc, j'ai dû arrêter de kiné. Et donc, finalement, j'ai dit, mais adieu, mais mes parents ont dépensé plus de 25 000 euros. Et maintenant, je vois que je suis malade, je sers à quoi en fait? Au début, j'en voulais un peu à Dieu parce que je ne comprenais pas. Alors que je lui disais, mais moi, je ne fais pas ceci, je ne fais pas ceci, je suis une fille assez correcte et tout ça. Et puis là, la maladie est là. Et puis, tu vois. Mais après, franchement, il faut vraiment bien s'entourer de bonnes personnes qui ont la foi aussi parce qu'ils étaient vraiment. Moi, je voyais ma mère qui était toujours attachée à Dieu. Et donc, plus je la regardais, je me dis, mais si elle croit fermement à Dieu comme ça, c'est-à-dire que Dieu est vraiment grand. Et après, je me suis dit, mais c'est peut-être pas la faute de Dieu, parce que s'il y a Dieu, il y a aussi Satan aussi. Et peut-être, on ne connaît vraiment pas le plan de Dieu. Et après, je me suis dit, mais Marie, si peut-être si tu as cette maladie, c'est peut-être pour faire quelque chose de plus grand. Peut-être pour montrer au monde que Dieu est plus grand. Et à ce moment-là, Dès que je me suis dit ça dans la tête, bah tout a changé. Vraiment, tout a changé. Même ma relation, elle est devenue meilleure. Je pouvais faire plein de choses pour Dieu. Même je parlais, j'étais. Ben c'est là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'accepter un peu, d'accepter ma maladie. Mais sinon, ma relation, maintenant, elle est plus liée. Enfin, plus. Comment dire ça? Elle est plus étroite avec Dieu.
Par rapport à ton entourage, qu'est-ce que tu conseillerais en fait? Comment réagir face à quelqu'un qui vit ce que tu vis?
Alors, j'ai parlé peut-être en général parce que pour une personne malade, hein, franchement, je pense qu'il faut apporter de l'amour à la personne qui est malade, la réconforter. Après, pas l'étouffer, hein, mais la réconforter de temps en temps parce que des fois, on a une baisse de morale parce qu'on se dit, mais pourquoi nous? Pourquoi on est malade? C'est quoi le but? Franchement, on ne connaît pas trop le plan de Dieu. Mais il ne faut pas nous laisser aussi de côté. C'est pas parce qu'on est malade qu'on ne peut rien faire. Faut toujours nous intégrer. Et puis, parce qu'on est toujours les mêmes personnes à l'intérieur. On a toujours la joie de vivre. Tout ça, tout ça. C'est juste qu'on est un peu plus faible. Et je pense qu'il ne faut pas nous juger aussi. Moi, j'avais, par exemple. Comme je restais souvent à la maison, il y a certaines personnes qui me disaient, bah, Marissa, en fait, tu es fainéante. En fait, c'est toi qui décides de pas vouloir faire des choses. Mais en fait, c'est que mon corps, il ne pouvait pas. J'étais tout le temps fatiguée, je dormais. Et puis, je me disais, mais pourquoi ils me disent ça? Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai jamais demandé à être malade. Et la fatigue chronique, c'est vraiment un grand fléau. Et quand je pense qu'il ne faudrait pas nous juger, ou même. Parce que j'avais pris aussi des corticoïdes et j'avais gonflé. Et on m'a sorti, ah, mais en fait, elle est enceinte et tout ça. Donc, en fait, je pense qu'il faut avoir de l'empathie, être tolérant et pas juger trop vite. Et vraiment s'intéresser à notre maladie, savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi nous poser des questions. Parce que nous, on est là pour répondre, hein, franchement. Mais je pense pas qu'il faut tout de suite nous critiquer. Parce que je pense que déjà, la personne, ce qu'elle vit, c'est difficile. Puis franchement, et si on guérissait pas? Franchement, des fois, je me demande, et si je ne guéris pas physiquement, est-ce que je vais m'arrêter de vivre? Ben non. Si je suis née, si je suis là, c'est vraiment pour servir les autres, servir Dieu. Et tant que tu es là, faut profiter, il faut avoir la joie de vivre. Parce qu'après, quand on n'est plus là, ben on va se rappeler des bons moments, on va se rappeler de la personne. Donc en fait, faut que notre vie soit de qualité. Et faut vraiment que l'entourage eh ben, nous entoure les gens qui sont malades. Parce qu'on ne sait pas aussi combien de temps ils vont rester.
Et quel conseil tu donnerais et quel message tu voudrais faire passer à une personne qui est atteinte d'une maladie, bon, pas forcément ce que tu as, mais du même type, quoi.
Alors, franchement, qu'elle garde courage, qu'elle garde la foi et surtout qu'elle ne se sous-estime pas. La maladie aussi ne te définit pas. Ça change pas qui tu es, car tu es toujours une princesse de l'éternel, ou si c'est un homme, un prince de l'éternel, et que tu as toujours de la valeur, même si tu es malade. Et franchement, il faut t'accrocher. Peut-être la vie est difficile. Moi, je me condamnais beaucoup, mais il y a un verset qui m'a aidée, qui me disait dans 1 Jean 3, verset 20, qui dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît toutes choses. Ce verset, dès que je l'ai lu, j'ai fait, oh là là, il est puissant ce verset. Et c'est vrai que parce que moi, à chaque fois, je me rabaissais, je me disais, je suis nulle, je ne sers à rien, j'arrive même pas à porter 2 packs d'eau, je peux même pas faire les courses. À chaque fois, c'est ma mère qui me dit, vas-y, je porte, alors qu'elle aussi, elle est malade, parce que ma mère aussi, elle est atteinte du lupus, mais au niveau cardiaque. Donc je me suis dit, mais finalement, je me condamnais beaucoup. Et ce verset-là m'a beaucoup aidée parce qu'il me dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand. Donc Dieu est plus grand que ça. Dieu est plus grand que tes pensées. Dieu est plus grand que tes mauvaises pensées que tu es en train de te dire tous les jours. Donc finalement, je me suis rappelé que je suis une créature, une merveilleuse créature, et que c'est Dieu qui m'a formée. Donc finalement, je ne suis pas n'importe qui. Donc faut arrêter de se dévaloriser, même si on est malade. Et je me dis que peut-être la maladie sur cette terre, elle est là, mais au ciel, elle ne sera plus là. Donc peut-être avec cette maladie ici, ben, autant faire de notre mieux, être gentil avec les gens, être toujours positive et toujours faire le bien. Puis voilà.
D'accord. Alors, bah merci. Est-ce que tu pourrais partager un verset biblique qui a été pour toi un soutien dans tes moments difficiles?
D'accord. Alors, le soutien que j'aime énormément se trouve dans Ésaïe 41, verset 10, qui dit: N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite, la main de la justice. Amen.
Amen. Merci beaucoup,
Merci à
Maricier.
toi, Violette.
Nous voici arrivés à la fin de ce podcast. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi désormais faire un don PayPal. Le lien est dans la barre de description. Pour suivre l'actualité du podcast ou envoyer un message, vous pouvez suivre l'Instagram Parlons peu, parlons bien, tout attaché avec un tiret du bas à la fin. C'était Violette, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau podcast.